Voilà, nous reprenons donc après un temps d'interruption notre série études sur Jésus. Nous avions donc fait une petite interruption au moment des fêtes de Noël. Il y a 2 mois, donc, nous avions essayé de parcourir la façon dont la venue de Jésus, de celui qui devait venir, combien cette venue avait été annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Elle correspond à un plan de Dieu qui remonte à loin. Et nous avions vu que dès le moment où l'homme s'était écarté de Dieu, le Seigneur avait déjà annoncé ce plan. Et puis ensuite, différentes figures de l'Ancien Testament annonçaient déjà la venue de celui qui devait venir, précisaient les choses de telle sorte qu'on puisse le reconnaître et reconnaître aussi la main de Dieu au moment où ces choses s'accompliraient. Alors parmi les figures qu'on a vues dans l'Ancien Testament, il devait être comme un nouveau Moïse, un prophète comme Moïse était annoncé. Une autre figure était celle d'un fils de David qui serait un roi, mais un roi paré d'attributs tout particuliers, une royauté éternelle. Et au fur et à mesure que l'on pense à ce roi, et qu'il y a une révélation sur lui, on se rend compte qu'il y a même des titres divins qui sont les siens. Une troisième figure était celle du serviteur de l'Éternel, prédit par Ésaïe, qui lui souffrirait pour le pardon des péchés. Et une quatrième figure, celle du Fils de l'homme qui vient sur les nuées et dont parle Daniel 7, et qui établit un royaume éternel, un royaume universel. La synthèse entre ces différentes figures n'était pas facile à faire, et en fait, on attendait en quelque sorte la pièce du puzzle qui vraiment relierait entre elles ces différentes facettes de l'annonce de l'œuvre de Dieu. Et je vous invite maintenant à essayer de voir la façon dont les choses se sont passées lorsque Jésus arrive. Et nous allons en fait étudier 2 aspects des débuts du ministère de Jésus, la façon dont il se présente. D'abord, dire quelques mots concernant le contexte dans lequel Jésus arrive, le contexte tel qu'il est, avec les attentes aussi qui habitent le peuple d'Israël, et ensuite la façon dont Jésus lui-même s'est présenté en relation avec cela. Alors, on va lire 2 textes. Le premier, dans Luc chapitre 2, c'est le témoignage de Siméon. Luc chapitre 2, versets 29 à 32. Témoignage lorsque Jésus est présenté au temple par ses parents pour être circoncis. Luc 2, donc, verset 29. Donc, Siméon s'approche, prend l'enfant dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et puis un 2e texte qu'on va lire est un peu moins paisible que celui-là. Il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et il montre un certain nombre de questions que l'on se pose concernant Jésus. Luc 7, à partir du verset 25. C'est lors de la fête des tabernacles ou des tentes, et on parle sur Jésus. Quelques habitants de Jérusalem disaient: « N'est-ce pas celui que les chefs du peuple cherchent à faire mourir ? Et le voici qui parle librement, ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient-ils vraiment reconnu qu'il est le Messie ? Cependant celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus enseignait dans le temple. Il s'écria alors: « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et ils disaient: « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci ? » Le pharisien entendit dire la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et des pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit: « Je suis venu pour un peu de temps encore, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, car là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs dirent alors entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés dans le reste du monde ? Enseignera-t-il les non-Juifs ? Que signifie cette parole qu'il a dit ? Vous me cherchez, vous ne me trouverez pas. Là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore donné, car Jésus n'avait pas encore été élevé dans le soir. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Messie. » Mais d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie ?» L'Écriture ne nous dit-elle pas que c'est de la descendance de David, du village de Bethléem où était David, que le Messie doit venir ? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur eux. Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres, les pharisiens, qui leur dirent, « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Vous voyez que quand Jésus est venu, c'était quand même sportif les débats autour de sa présence, autour de sa personne. Et nous voulons essayer un petit peu de comprendre les choses. Nous avons commencé par Siméon. Siméon qui rencontre Marie et Joseph dans le temple reflète bien l'état d'esprit d'un juif pieux au temps de Jésus. C'est quelqu'un qui est porté par une formidable attente que Dieu apporte la délivrance, qu'il apporte le salut. Cette délivrance, on sait qu'elle est préparée de loin, et ce sont toutes les promesses de Dieu qui permettent vraiment de dire cela. Cette délivrance, elle est spirituelle, il est question d'un salut, mais elle a aussi certainement dans l'esprit de beaucoup un côté un peu politique, car à ce moment-là, Israël souffre sous le joug des Romains. Elle n'est pas non plus fermée simplement sur Israël, puisque Siméon parle d'une lumière pour toutes les nations, mais en même temps, elle sera la gloire d'Israël, c'est à partir d'Israël que tout part. C'est donc ici l'espérance d'un homme pieux, et elle montre vraiment comment quelqu'un qui était nourri de la parole de Dieu gardait un regard d'espérance. Siméon donc représente ce peuple des fidèles, mais il est vrai qu'autour de lui, en Israël, les attentes sont diverses, avec une gamme assez variée. Et j'aimerais donc que nous essayions de faire un petit peu un portrait de la situation d'Israël au moment où Jésus arrive, où il entre sur la scène. Quelques mots d'abord sur la situation politique. Au temps de Jésus, cela fait des siècles qu'Israël est un pays plus ou moins assujetti. Israël, en fait, est un tout petit pays. Et depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, le pays a été plus ou moins tout le temps sous la tutelle de l'un des grands empires qui régnait. Alors, il y a eu les Assyriens, il y a eu les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, l'Empire grec et finalement les Romains. Donc, vraiment, l'ensemble de ces grands empires qui viennent assujettir ce petit pays qui n'est pas grand-chose, finalement. Pendant tous ces sept siècles qui ont précédé la venue de Jésus, il y a eu une seule période où Israël a été indépendant. Elle a fait suite à une révolte nationaliste qu'on appelait la révolte des Maccabées. Alors les Maccabées, ça s'est passé au 2e siècle avant Jésus-Christ, entre 166 avant Jésus-Christ et 63, un siècle juste, hein. Alors les Maccabées, ça désigne des gens, ça veut dire probablement le marteau, ça veut dire la force de frappe de ces gens-là. C'était des gens qui se sont révoltés contre l'Empire grec, qui essayaient de tout niveler et qui ont réussi à maintenir un peu d'indépendance. Cette période d'indépendance a été glorieuse par sa résistance à l'ennemi. Mais une fois que le peuple a été un peu indépendant, ça a été assez désastreux parce que entre eux, ceux qui voulaient, les révolutionnaires, comme ça arrive de temps en temps, se faisaient un peu la guerre entre eux, si vous voulez. Et ça a été assez désastreux de ce côté-là, avec toutes les limites que cela impliquait. Et c'est pourquoi que finalement, en 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée s'est emparé de Jérusalem Et il avait été appelé au secours par des Juifs qui étaient fatigués de toutes les querelles, le vandalisme qui était le fruit de ces guerres intestines entre toutes les quelques factions rivales là qui se faisaient un peu la guerre. Et donc, ce temps d'indépendance avait un bilan mitigé. D'un côté, un souvenir vif de ce que voulait dire l'indépendance, et en même temps, cette réalité qui n'était pas formidable. Lorsque les Romains s'installent, ils ne cherchent pas à exercer une domination directe sur le pays. Ils préfèrent installer des gouverneurs locaux, régionaux, si vous voulez, que ce soit eux qui assurent l'ordre dans le pays. Le plus célèbre, c'est Hérode le Grand. Alors, je mets quelques repères, ça vous aide un petit peu. Hérode le Grand, c'est le roi Hérode sous lequel Jésus est né, celui qui a fait tuer les enfants de Bethléem. Hérode le Grand, il a été roi de 37 avant Jésus-Christ jusqu'à 4 avant Jésus-Christ. Alors peut-être que certains d'entre vous sont un peu étonnés en disant que le roi Hérode était là quand Jésus est né, mais il a fini son règne en 4 avant Jésus-Christ. C'est que Jésus est né en 6 avant Jésus-Christ. Eh oui, je ne sais pas si vous étiez au courant, je vous l'apprends autrement. Jésus est né en 6 avant Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas qu'il est né avant l'heure, super prématuré, mais c'est plutôt que lorsque, au 4e siècle, je crois, on a essayé de fixer le début de l'ère chrétienne, il y a eu une erreur de calcul qui a été faite par le moine qui a fait cela, et du coup, Jésus est né en 6 avant Jésus-Christ. L'ère chrétienne ne tombe pas au moment de la naissance de Jésus-Christ. C'est juste bon à savoir. Hein. Alors, Hérode était installé là par les Romains, et c'est quelqu'un qui ne sera jamais vraiment reconnu par les Juifs. Hein. Il n'était pas vraiment juif, il était plutôt de la région d'Édom, du côté de la Jordanie. Et alors, il fera tout ce qu'il peut pour se faire accepter par les Juifs. Il épousera une princesse juive au milieu d'autres femmes. C'est lui qui construira en particulier le temple de Jérusalem, un temple magnifique. Mais son but, c'est pas le culte, son but, c'est le pouvoir. Et il n'arrivera jamais, malgré tout cela, à se faire aimer. Il essayera de contrôler aussi le domaine religieux. C'est lui qui nomme les grands prêtres. Et puis, il se met donc vraiment beaucoup de gens contre lui. Et à la fin de sa vie, il tombera dans une véritable paranoïa. Il voit des complots partout. Et le fait que, au moment où Jésus naît, il y ait ce massacre des innocents, ça correspond tout à fait à l'état d'esprit qui était celui d'Hérode, Hérode le Grand, à ce moment-là. À sa mort, le pays est réparti en 3 petits états qui est confié chacun à l'un des fils d'Hérode. Alors, il y a la région de Judée-Samarie, hein, donc avec Jérusalem au centre et puis la Samarie un petit peu au nord. Je suis désolé, j'ai pas pu faire de PowerPoint, j'ai pas eu vraiment le temps. Donc, la Judée-Samarie avec Jérusalem comme capitale, elle est confiée à un fils d'Hérode qui s'appelle Archélaüs. Pas besoin de vous rappeler de son nom, mais il faut savoir que sa politique a été si désastreuse que il a été démis de ses fonctions au bout de 10 ans. Les Juifs ont envoyé une délégation à Rome en disant « Celui-ci, on n'en veut plus ». Du coup, les Romains choisissent de gouverner directement la province en installant un préfet en Judée. Et c'est à cause de cela que ça se passe comme cela. Et cela ne se passera pas sans heurts et sans révolte. Il y aura en particulier en 6 ou 7 après Jésus-Christ, donc quand Jésus avait 12-13 ans, une révolte d'un certain Judas le Galiléen, suite à un recensement pour récolter des impôts, et une révolte qui sera matée vraiment par les Romains de manière terrible, puisqu'il y aura environ 2000 gens qui seront crucifiés à la proximité de Jérusalem. Donc vous voyez, révolte politique, quand Jésus a 12-13 ans, il connaît ces événements avec environ 2000 gens qui sont tués à ce moment-là. La deuxième région, la Galilée, donc plus au nord, est confié à Hérode Antipas. Il gouvernera plus longtemps, lui. C'est lui qui toute la vie de Jésus sera aux commandes. C'est celui qui fera décapiter, entre autres, Jean-Baptiste. Et puis, il y a un troisième fils, Philippe, qui est nommé gouverneur d'autres territoires au nord-est d'Israël, mais ça n'a pas d'influence sur la vie de Jésus. Donc Jésus vit dans un pays sous l'autorité politique d'Hérode Antipas en Galilée, et de Ponce Pilate, qui est préfet de Judée à partir de l'an 26. L'un et l'autre ne sont pas très populaires. Ceci dit, politiquement parlant, la période de la vie de Jésus est une période calme. L'empereur romain s'appelle Tibère, et ce qu'on dit du règne de Tibère, ce que dit Tacite l'historien, c'est « sous Tibère, tout était calme ». C'est la paix romaine, la Pax Romana, et d'une certaine façon, le temps du ministère de Jésus et de l'essentiel de sa vie était un temps assez protégé. C'est assez étonnant d'y penser. Politiquement, d'un côté, c'est calme. Il n'y a pas de sécheresse non plus, pas d'ouragan, on n'entend pas d'épidémie, de révolte importante. Ce n'est qu'en 46 après Jésus-Christ qu'il y aura une révolte, une sécheresse, puis en 66 une révolte politique. Mais le temps du ministère de Jésus est un temps de paix relative. Alors, j'ai parlé de cette Pax Romana, la paix romaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais juste, pour situer le contexte, dire que cette paix romaine, si elle est appréciable d'une certaine façon, a quand même un prix. Et en particulier, les Juifs sont accablés d'impôts. Et la situation des Juifs au temps de Jésus n'est pas facile du tout. Alors, ils avaient déjà leurs propres impôts religieux, du fait de leur appartenance, de la loi juive, de la loi de Moïse. À cela s'ajoutent plusieurs taxes romaines. Des taxes surtout sur la terre, sur le bétail, sur les transactions commerciales, sur les marchandises. Et en plus, on ajoutait une taxe sur chaque tête, sur chaque personne. Et c'est pour ça qu'il y avait des recensements assez réguliers pour que personne n'échappe aux taxes. On a estimé qu'au temps de Jésus, un juif payait au moins 40% de ses revenus en impôts. 40%. Vous voyez, ça veut dire quand même un certain poids. Et le monde des petits était un monde en souffrance. Alors, vous savez, on parle aussi dans l'Évangile des collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts, ils avaient du boulot. Il y avait des taxes à récolter. Et ils faisaient vraiment parfois un travail... vous savez, la charge de collecteur d'impôts était donnée à celui qui en promettait le plus aux Romains. Donc celui qui offrait le plus aux Romains, il avait la charge. Après, les Romains fermaient les yeux sur les moyens par lesquels ils faisaient rentrer l'argent. Vous comprenez que les collecteurs d'impôts au temps de Jésus, on ne les aimait pas vraiment. Et les collecteurs avaient des sous-collecteurs qui avaient des sous-collecteurs, ok, mais toujours est-il que c'était très très lourd. Hein. À cela s'ajoutaient aussi des humiliations qui pouvaient survenir à bien des instants. On pouvait, si une troupe romaine passait, être réquisitionné à n'importe quel moment. On dit, toi, tu fais ça. Il y en a un qui a été réquisitionné. Vous savez qui ? Vous vous souvenez qui ? Il y en a un célèbre. Simon de Cyrène, réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Hein, voilà. Et ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Hein. Sans compter tous les droits que les armées d'occupation s'arrogent toujours et partout. Donc vraiment, le peuple était sous pression et il faut juste le savoir vraiment. Quelles sont, dans ce contexte-là, les attentes qui parcouraient le peuple ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on attendait une intervention de Dieu un moment. On attendait le jour du Seigneur promis par les prophètes, un jour qui rendrait à Israël son rôle à la tête des nations et comme le centre de l'action de Dieu pour le monde. Maintenant, selon les groupes, cette intervention de Dieu se focalisait sur des espérances différentes. Pour l'homme de la rue, celui que l'on attend, c'est le Messie. Et le Messie, on l'attend sous la forme d'un nouveau David, du fils de David, c'est-à-dire d'un roi qui restaure le royaume d'Israël et qui lui donne à nouveau un rôle et un rôle universel. Et donc c'est l'attente d'un Messie politique avant tout. Et cette attente d'un roi, elle se manifestera à plusieurs reprises à l'égard de Jésus. Par exemple, Jean nous rapporte qu'après que Jésus ait multiplié les pains, on a voulu le prendre pour le faire roi, justement. Parce qu'on se disait, il a fait un grand miracle comme Moïse, c'est lui vraiment. Et il faut qu'il soit immédiatement roi. Et l'évangile de Jean nous dit, à ce moment-là, Jésus, sachant qu'il voulait le faire roi, est parti, s'est mis à l'écart et les a laissés. C'est aussi cette espérance d'un roi qui s'est manifesté le jour des rameaux. Lorsque Jésus entre à Jérusalem sur un ânon, tout le monde chante pour lui, mais c'est vraiment l'espérance de celui qui serait le roi, le fils de David. C'est cela l'espérance du peuple. D'autres, au temps de Jésus, attendent plutôt qu'un roi, donc un homme qui ferait le travail en quelque sorte, attendent plutôt qu'il y ait une espèce d'action décisive du Seigneur qui intervient directement des cieux. Pendant tout le deuxième siècle avant Jésus-Christ, toute une littérature s'était développée dans cette optique. On appelle ça la littérature apocalyptique, et le mot dit bien ce que ça veut dire. Et l'idée, c'est vraiment qu'on attend une sorte de grande bataille cosmique du bien contre le mal qui débouchera sur une délivrance, mais une délivrance qui vient vraiment d'en haut. Comme nous attendons pour la fin des temps le retour du Seigneur pour faire toutes choses nouvelles, de même on attendait quelque chose qui vienne comme cela d'en haut et qui restaure l'ordre. Et c'est ainsi qu'on attendait d'être délivré des Romains. Et deux traits caractérisaient ces apocalypses. L'idée que le moment décisif est proche, c'est maintenant que Dieu va délivrer, et l'idée que ce sera vraiment une intervention radicale de Dieu qui mettra de l'ordre dans tout ce qui est détraqué dans le monde. Et quand on sait qu'il y avait ces choses qui étaient très présentes dans l'esprit des gens, on comprend quand même aussi que quand Jésus fait des signes et qu'il fait des miracles, il y avait des gens qui commençaient à frémir en disant « ça va venir, ça va tomber dessus, l'apocalypse est proche », si je peux dire les choses comme cela. Donc c'était un deuxième groupe qui attendait de cette façon-là une intervention d'en haut. Un troisième groupe au temps de Jésus était constitué par, on va dire, des séparatistes religieux. Alors on en a retrouvé des traces dans les manuscrits de la mer morte qui ont été découverts à Qumran en 1947. En gros, ces groupes estiment que seule une communauté sainte, parfaitement sainte, offrira le cadre qui permettra la venue du Messie. Pour que le Messie vienne, il faut qu'il y ait un peuple, une communauté sainte, un peuple nouveau, qui doit absolument se séparer de tout ce qui est impur. Et pour ces communautés séparatistes, Israël, dans son ensemble, est devenu impur. Le culte du temple n'est pas assez saint pour Dieu, pas assez pur pour Dieu. Il faut vraiment constituer le vrai peuple de Dieu, le vrai Israël, à l'écart et d'une manière qui se protège de tout ce qui pourrait être impur. Et donc dans ces milieux séparatistes, on pratique beaucoup de rites, de purification très développés. On étudie les textes bibliques, on se les applique aussi très précisément. Et ces communautés sont certaines que le grand combat viendra bientôt, qui verra le triomphe des fils de la lumière. Et ils veulent être prêts pour ce combat, c'est-à-dire parfaitement saints. Alors dans une communauté comme celle de Qumran, d'après ce qu'on a découvert, il y a une double attente en ce qui concerne le Messie. On attend le Messie d'Israël, qui est fils de David et qui délivrera des ennemis. Donc c'est ce qu'on attend. Mais on attend aussi le Messie d'Aaron, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt un prêtre et qui est même plus important que le Messie d'Israël parce qu'il est le grand prêtre idéal qui assurera la sainteté du peuple et qui permettra de vivre en paix. Donc vous voyez, l'insistance là est sur la vie sainte, sur la pureté rituelle du peuple, et c'est pour cela qu'on se sépare absolument en disant c'est ainsi que le Messie pourra venir et que Dieu pourra intervenir. Alors c'est une approche un peu différente de celle des pharisiens. Vous savez que les pharisiens c'était des gens très pieux qui cherchaient aussi à vivre une vie de pureté, de sainteté. Mais eux voulaient y arriver en observant très scrupuleusement la loi de Moïse. Mais eux, ils acceptaient la vie quotidienne à mener tous les jours. Ils acceptaient aussi le culte du temple de Jérusalem. Hein. Donc, il y a quand même, on est sur une ligne qui ressemble un petit peu, mais il n'y a pas ce côté séparatiste qu'il y avait donc dans ces milieux comme celui de Qumran. Quatrième regard sur les attentes, la question est posée, est-ce qu'il y avait au temps de Jésus des adeptes de la lutte armée, qui pensaient vraiment qu'il fallait délivrer des Romains avec l'épée à la main. Alors on a longtemps affirmé cela, qu'il y avait des adeptes de la lutte armée au temps de Jésus, pendant son ministère. On parle des zélotes dans ce sens-là. Mais la question est actuellement, si j'ai bien compris les débats, en pleine réévaluation, en pleine discussion. Je vous ai dit que quand Jésus avait 13 ans, il y avait eu une révolte, la révolte de Judas le Galiléen, avec ses 2000 crucifixions dont Jésus a eu vent certainement. Et plusieurs disent qu'à partir de là, il y a un mouvement qui s'appelle les Zélotes et qui serait continué. Le problème, c'est que dans les sources que l'on a, on ne trouve rien concernant les Zélotes autour de la période de la vie de Jésus. Il y a eu ensuite des révoltes armées, mais c'est seulement autour des années 50-60 après Jésus-Christ. Et ce qu'on appelle le parti des Zélotes a été fondé seulement dans les années 67-68 pour faire cesser à Jérusalem des sacrifices qui étaient offerts en faveur de l'empereur. Juste pour dire un petit mot, on tendait à imposer le culte de l'empereur. Et en Judée, ils ont trouvé une astuce pour se faire quand même la faveur des Romains sans aller vers le culte de l'empereur. Ils ont choisi d'avoir des sacrifices, non pas où on offre à l'empereur, mais on offre en faveur de l'empereur. Vous saisissez la nuance, hein, comme si on priait pour lui un sacrifice en sa faveur. Et donc c'est comme ça qu'ils ont essayé de faire, et ça a suscité la révolte de certains, qui aboutit au bout du compte à la destruction du temple à Jérusalem. Donc, mais il semble que pendant la période de Jésus, il n'y ait pas eu vraiment énormément de lutte armée. Et il y a ce disciple qui s'appelait Simon le Zélote, hein. Et souvent, on a dit Simon le Zélote, c'était quelqu'un qui était un partisan de la lutte armée. Simon le Zélote, ça peut aussi vouloir dire Simon le Zélé. Et zélé, ça peut être zélé pour beaucoup de choses, et pas forcément pour la lutte armée. Ça peut être zélé pour le Seigneur. Il faut qu'on soit prudent sur ces questions-là. En tout cas, donc, il y a une attente d'un libérateur, ça c'est clair. Par contre, ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a aucune attente de quelqu'un qui, par exemple, selon Ésaïe 55, du serviteur qui mourrait pour son peuple. Ça, c'était quelque chose qui était complètement occulté, pas du tout présent dans l'esprit des gens, et pourtant, c'était annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, on va en venir à Jésus, mais juste avant d'en venir à Jésus, j'aimerais dire quelques mots sur celui qui a préparé la venue de Jésus, à savoir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste surgit donc du désert, c'est là que tout commence, en l'automne de l'an 28 probablement. C'est un personnage particulier, ceux qui connaissent l'histoire de la Bible le savent, il est jusque dans sa manière de s'habiller, un vêtement en poil de chameau, une ceinture juste à ses reins, mais c'est surtout et avant tout une voix forte, prophétique. Et il faut se souvenir que depuis des siècles, il n'y a plus eu de prophète. Et voilà que tout d'un coup, ce silence des prophètes, qui avait duré des siècles, est rompu. La voix d'un prophète se fait à nouveau entendre. Et cette voix, elle est forte. C'est un message tranchant, incisif. Il annonce le jugement qui vient et la nécessité de se repentir et de produire des fruits dignes de repentance. Et chacun doit se positionner devant Dieu, hein, personnellement. Même les pharisiens, les sadducéens sont pris à partie, personne n'échappe. Il veut bousculer, il veut ôter toutes les fausses sécurités que pourrait apporter le fait d'être simplement né fils d'Abraham. La repentance est annoncée, et si elle est nécessaire, c'est parce que Dieu va intervenir. L'intervention que Jean souligne, c'est celle pour le jugement. Dieu va intervenir pour le jugement, mais il y a un espoir qui est conditionné par le fait de reconnaître ses fautes et d'accepter de changer de vie et d'attitude. La nouveauté, c'est que Jean propose un acte symbolique pour accompagner la réponse à sa prédication. Il baptise dans l'eau ceux qui se repentent. L'eau symbolise la pureté et la vie. Baptisé dans l'eau, ça veut dire que l'on peut être lavé de ses fautes et que l'on peut recevoir une vie nouvelle. Alors au temps de Jésus, à cette époque-là, les rituels liés à l'eau étaient courants. Ils s'étaient beaucoup développés. On demandait souvent aux gens de se laver, de se purifier. Mais il s'agissait là de purification rituelle. Hein, si on avait touché un cadavre, si on avait eu des rapports sexuels, par exemple, il fallait ensuite se purifier rituellement pour pouvoir être apte au culte. Et quand on parlait de purification, c'était ce genre de choses-là que l'on envisageait, une purification rituelle. On devait aussi purifier les objets, les coupes, les cruches, les plats. Il fallait se garder de tout contact mauvais qui pourrait éventuellement salir et rendre impropre au culte. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment très, très demandé. Les pharisiens demandaient des purifications régulières de tout parce qu'il fallait vraiment rester dans cet état de pureté rituelle qui permettait de participer au culte et de s'approcher de Dieu de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces purifications rituelles, finalement, divisaient la société. Il y avait des gens qui, par exemple, à cause de leur métier, devenaient régulièrement impurs. Des médecins qui devaient toucher des gens malades ou des cadavres, ils étaient régulièrement impurs, considérés comme impurs. Les bergers, les bouchers, bien des personnes, ceux qui étaient au contact des non-juifs aussi, Et donc un souci très très fort qui était poussé. Le baptême de Jean implique aussi un passage dans l'eau. Mais il se démarque de toutes ces choses qui existaient à ce moment-là en Israël. On peut essayer de faire quelques différences par rapport à ces purifications rituelles qui avaient cours. Hein. Quelles sont les différences? D'abord, le baptême de Jean ne sépare pas, ne distingue pas ce qui est sacré de ce qui est profane, hein, mais distingue ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est moral, ce qui est immoral. Le problème, c'est pas j'ai touché quelque chose de sale ou j'ai touché quelque chose d'impur. Le problème, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Et c'est vraiment la différence entre ces deux domaines. Et ça veut dire que la venue de celui qui doit venir exige une pureté intérieure, une sainteté personnelle, morale, et non pas simplement une question de pureté extérieure. Un autre aspect qui est important, c'est que c'est la démarche intérieure qui est essentielle. Jean demande « Repentez-vous ». Et c'est parce qu'on fait la démarche intérieure que l'on peut être en règle avec Dieu. Et c'est cela qui est exprimé ensuite par le geste symbolique. Il faut aussi voir que ce que Jean fait implique une perspective assez radicale sur le péché. Tous sont concernés. Et même les pharisiens, même ceux qui voulaient observer la loi le plus près, sont concernés par le message. En même temps, c'est un acte qui est administré, lui, une fois pour toutes, pas comme les purifications qui devaient se faire toujours à nouveau. On n'est pas dans les répétitions permanentes, mais parce qu'il y a une disposition de cœur clairement dite et affirmée par rapport à Dieu, il y a une nouvelle situation dans la relation avec Dieu qui est installée. Et puis dernier point, une fois qu'on était baptisé, on pouvait retourner à ses occupations habituelles. Ce qui comptait, c'était de garder la disposition intérieure et de manifester des fruits dignes de la repentance. Donc voilà pour la perspective de Jean, qui est assez différente quand même de ce qui se passe autour de lui en Israël. Et en même temps, Jean n'accomplit aucun signe, aucun prodige, aucun miracle. Sa force, c'est la parole. On notera aussi que Jean n'invite à aucune transformation politique. Le changement, comme on dit en des temps de période de changement politique, de réflexion à la politique, le changement, c'est le changement intérieur, personnel, profond. Et Jean donc annonce celui qui doit venir. Et c'est ici donc que j'aimerais dire quelques mots sur la façon dont Jésus se présente dans tout ce contexte et avec cette préparation. Et donc, point suivant, comment Jésus paraît l'énigmatique rabbi galiléen. Vous connaissez l'ouvrage de Françoise Dolto, « Lorsque l'enfant paraît ». La question, c'est qu'en est-il lorsque celui qui devait venir paraît ? Ce qui est clair lorsqu'on essaye de voir à la façon dont Jésus s'est présenté, c'est qu'il n'a pas choisi les chemins que prendrait, par exemple, la publicité ou la communication contemporaine. Jésus n'a pas eu un Jacques Ségala pour lui montrer comment se présenter en tant que Messie à Israël. Jésus a préféré, en fait, susciter l'interrogation sur sa personne que de pratiquer l'affirmation claironnante de ses titres. Je crois que ça, c'est vraiment important de le voir. Quand il a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?», les réponses ont été multiples et contradictoires. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. On a poussé parfois Jésus à se dévoiler. Dans Jean, chapitre 10, au verset 24, il est dit « Les Juifs entourèrent Jésus et lui dirent « Mais jusqu'à quand vas-tu tenir notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Allez, révèle-toi, on lui demande. Et la réponse de Jésus est de dire, mais vous avez mes œuvres, elles parlent de moi. Vous voyez la façon dont les choses se passent. Et Jésus dira aussi, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et il dit cela après que Jean-Baptiste même ait demandé, es-tu bien celui qui devait venir ? Et on le comprend, Jean-Baptiste, il était en prison après avoir eu ce rôle et il croupissait dans sa prison. Il se dit, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Est-ce que c'est bien lui, le Messie ? Est-ce que c'est bien normal que je sois en prison ? Jésus donc a choisi de se présenter sous des traits qui dévoilent sa personne, mais me semble-t-il d'une façon qui laisse toujours une place pour la démarche et la recherche personnelle et sincère de celui qui s'approche de lui. Il me semble que c'est une des clés de la réserve, de la manière dont Jésus s'est présenté. Celui qui cherche à cœur ouvert a de quoi découvrir et peut découvrir qui est vraiment Jésus, s'il est vraiment le Messie, etc. Mais celui qui reste juste à la surface des choses ou qui reste dans ses préjugés, celui-là ne découvrira rien. Il me semble que Jésus a veillé à ce que les choses se passent avec cet équilibre-là. Comment donc percer le mystère de cet énigmatique Messie ? Il faut approfondir un certain nombre de choses, un certain nombre de contrastes. Quand on regarde d'abord concernant ses origines, Jésus a grandi, on le sait, à Nazareth, en Galilée, la région du nord d'Israël. Il était connu comme Galiléen, mais les préjugés contre les Galiléens étaient nombreux. Et bon, les Galiléens, c'était des paysans, c'était des petites gens, des gens qui en plus parlaient avec un accent particulier, donc tout ça fait qu'ils étaient un peu méprisés. Et entre autres, les gens de Jérusalem méprisaient assez souverainement les Galiléens. Lorsque Philippe, qui a rencontré Jésus auprès de Jean-Baptiste, va auprès d'un de ses amis qui est assez érudit vraisemblablement et qui s'appelle Nathanaël et lui dit « Écoute, j'ai peut-être découvert en Jésus le Messie », la réponse que lui fait Nathanaël est dit « Mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth ?» Oui, ça c'est l'état d'esprit concernant les Galiléens. Et Jésus a endossé cette identité, cette origine galiléenne qui était la sienne. Et vous avez vu aussi dans le texte de Jean qu'on a lu, des gens disaient « Mais attends, est-ce que c'est bien de la Galilée que doit venir le Messie ?» Ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'on ne voit à aucun endroit Jésus argumenter le fait de dire « Non, 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 mais moi je suis né à Bethléem, vous savez, je suis né dans la ville de David. » Les origines de Jésus restent un peu obscures. Et Jésus n'argumente pas là-dessus. Voilà quelques mots sur ses origines. Comment se présente son enseignement à ceux qui le rencontrent ? Jésus enseigne à la manière d'un rabbin itinérant, comme bien il y en avait pas mal. Mais Jésus n'a suivi aucune école lui-même. Il n'a été formé par aucun maître. Et ce qui voulait dire que parfois, on lui posait la question, mais par quelle autorité fais-tu ces choses ? C'est ce qu'ils demandent les chefs de Jérusalem, Matthieu 21. Et pourtant, Jésus suscite l'étonnement. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. On l'a lu tout à l'heure. Étrange, cet homme qui n'a suivi aucune école et qui pourtant parle comme jamais personne n'a parlé. Autre contraste dans son enseignement. Jésus valorise vraiment et sans cesse l'autorité de l'Écriture. Il dit très fort, hein, il dit « Malheur à quiconque supprimera ou enseignera de supprimer le moindre commandement. » Donc c'est important pour lui, tout ce que Dieu dit dans l'Écriture compte. Il ne s'agit pas de supprimer quoi que ce soit. Lui-même se soumet à l'Écriture, dans sa vie, dans sa manière d'enseigner. Quand il argumente, c'est l'autorité de l'Écriture qu'il met en avant. Bien souvent, n'avez-vous pas lu que, etc. Et il utilise très finement, très respectueusement le texte de l'Écriture. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un qui a valorisé l'autorité de l'Écriture, donc du Premier Testament, la loi, les prophètes, c'est Jésus. Et en même temps, ce qui est très surprenant, c'est qu'après avoir cité certains des commandements les plus connus, entre autres du Décalogue, Jésus ajoute magistralement, vous avez entendu ce que dit le Décalogue, et Jésus ajoute, « Mais moi, je vous dis. » Ça veut dire que Jésus se place au moins au niveau de quelqu'un qui est équivalent à Moïse, et au moins comme quelqu'un qui parle avec l'autorité de quelqu'un qui établit une nouvelle alliance. C'est quand même l'alliance de Dieu que le Décalogue. Et Jésus dit, moi je vous dis, très fort comme positionnement. Et Jésus ne dit pas, le Seigneur m'a dit, comme le dirait un prophète. Il dit, moi je vous dis. Il met son autorité propre en avant. Et souvent d'ailleurs, quand il commence un enseignement important, quelle est la formule par laquelle il commence ? En vérité, je vous le dis. Et là encore, il s'affirme lui-même. Comment parlaient les prophètes quand ils annonçaient quelque chose qui venait de Dieu ? Ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Jésus se met au niveau de ainsi parle l'Éternel. C'est vraiment comme cela qu'il parle. Il ne parle pas au nom de Dieu, il parle comme Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est un très, très, absolument courant de son enseignement. Et ce qui est, c'est quand même assez époustouflant d'une certaine façon. En même temps, ce qui est impressionnant, c'est que cela sonne juste dans la bouche de Jésus. Jésus n'est pas un fanfaron. Ce n'est pas quelqu'un qui dit en vérité, je vous le dis. Attention, j'arrive. Ce n'est pas du tout cela. Jésus est doux, humble de cœur, et on reconnaît cela vraiment chez lui. Et pourtant, quand il dit en vérité, je vous le dis, quand il dit, voilà ce que Moïse a dit, mais moi je vous dis, ça sonne juste. Et ça veut dire qu'il y a derrière cela une profondeur de sa personne, qui permet à la fois cette humilité étonnante et cette autorité qui s'affirme, mais dans la simplicité, mais avec force quand même. Voilà. L'enseignement de Jésus laisse passer cela. Et c'est ce que l'on découvre si on le considère. Troisième aspect de son enseignement, contrairement à Jean-Baptiste, Jésus, lui, accompagne son enseignement par des miracles. Jean-Baptiste n'en a pas fait, et Jésus en fait. Mais curieusement, qu'est-ce que l'on découvre ? Jésus fait des miracles, mais il garde une certaine réserve par rapport au miraculeux. Il ne cherche pas le miraculeux à tout prix. Il refuse de faire un miracle quand on lui dit « mais prouve que tu es le Messie ». Alors il ne dit pas question. Et quand il a fait un miracle, souvent il recommande de ne pas en parler. Et pourtant le miracle, c'est ce qui exprime certainement qu'il est le Messie, qu'il est celui qui doit venir. Alors, Jésus fait les miracles d'un côté et d'un autre côté il dit « pas trop de pub ». Et certains parlent à ce propos de secret messianique. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc la question du miracle, là aussi, il n'est pas tout à fait comme on pourrait l'imaginer, Jésus. Quatrième aspect de l'enseignement, Jésus prêche la venue du royaume de Dieu, de son ouverture à tous. Et on a lu par exemple dans Jean 3, discussion avec Nicodème, entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est très clairement le royaume de Dieu que Jésus annonce. Mais curieusement, l'entrée dans ce royaume de Dieu se fait en grande partie selon l'attitude que l'on adopte à l'égard de Jésus. Jésus dit par exemple, « Si quelqu'un a honte de moi, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. » C'est par rapport à lui que les choses se situent aussi. Et Jésus dit aussi, « Je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. » C'est ce qu'il dit à ses disciples avant de les quitter. « Je dispose du royaume en votre faveur. » Il parle d'avoir les clés du royaume, les clés qui annoncent de l'évangile, qui annonce le royaume, la venue du royaume. Et c'est Jésus qui donne les clés du royaume à un tel, à un tel. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant de voir que Jésus annonce le royaume de Dieu, oui, et en même temps, beaucoup de choses se décident en fonction de lui, personnellement. Et c'est aussi ainsi qu'il parle, et ça passe. Jésus s'arroge aussi des droits qui appartiennent à Dieu seul, pour pardonner les péchés, par exemple. Et quand on le lui reproche, il dit, oui, mais j'ai ce pouvoir, et la preuve, je vais guérir la personne à qui je dis tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, là encore, dans l'enseignement de Jésus, à la fois, on sent qu'il y a quelque chose de particulier lié à sa personne, sa façon d'enseigner, ce qu'il dit, cette autorité. Voilà. Jésus n'est pas un rabbi comme les autres, c'est évident. Que dire concernant sa personne elle-même ? Quand on considère de plus près la personne de Jésus, on voit des traits qui s'harmonisent chez lui, alors que généralement, ils sont contradictoires chez d'autres. Un ou deux traits. Jésus vit de manière très proche et évidente une grande communion avec le Père. Il est vraiment dans une grande relation avec le Père. Maintenant, on sait que normalement, plus on s'approche de Dieu, plus on est habité par un sentiment d'indignité. C'est une règle. Les gens les plus spirituels sont aussi les gens qui reconnaissent leur besoin de Dieu, leur indignité. Chez Jésus, ce n'est pas le cas. Pourtant, il est humble, il est vrai, il est honnête avec lui-même. Mais par exemple, lorsque on lui amène une femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère, on veut qu'il la condamne, Jésus dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Tous ceux qui entendent cette parole, s'en vont. Ils se rendent compte qu'ils sont tous pécheurs. Qui reste ? Jésus. Et ça, c'est une sacrée affirmation concernant lui-même. Il reste. Il vit très près de Dieu. Et pourtant, aucun sentiment d'indignité. Et il dit, oui, je suis sans péché. Et à un autre moment, il dira, mais qui me convaincra de péché ? Et là encore, ça sonne juste. Ça sonne juste. Ça, c'est vraiment un trait qui est très caractéristique de Jésus et très étonnant, qui dit quelqu'un de particulier, c'est évident. Jésus dénonce le péché et l'injustice. En même temps, il a beaucoup de compassion pour les pécheurs qui sont tombés les plus bas. Il les accueille, il mange, il sait vraiment le faire. Et il ne cesse pas arrêter par ces questions de pureté rituelle, etc. Jésus aussi est un modèle d'humilité, on l'a dit. Et pourtant, quand on le compare au plus grand d'Israël, il soutient la comparaison. On lui demande, la femme samaritaine pour qui en Samarie c'était Jacob qui avait fait un puits qui était très important. « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Et Jésus, il laisse entendre que oui, bien entendu. On lui demande, « Es-tu grand que notre père Abraham ?» Et la réponse est oui, sans équivoque. Et Jésus dit même, il y a, en parlant de lui, plus grand que le temple. Et là encore, Jésus humble et pourtant ça sonne juste. On l'accepte. Ce qui serait injustifiable et prétentieux chez n'importe qui d'autre sonne juste chez Jésus. Sa personne en impose vraiment, il y a quelque chose de particulier. Après avoir dit quelques mots sur sa personne, quelques mots maintenant sur les attentes messianiques. Comment Jésus s'est-il situé par rapport aux attentes messianiques de son temps ? Est-ce qu'il a accepté, est-ce qu'il a affirmé pour lui-même le titre de Messie ? Alors pour nous, le titre de Messie est un titre qui est indissociablement lié à Jésus. Je ne sais pas si vous en rendez compte, nous on parle facilement de Jésus-Christ, où on dit le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire le Christ ? Ça veut dire le Messie, c'est exactement pareil. Ça veut dire celui qui est choisi par Dieu, celui qui est l'envoyé de Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu. Donc pour nous, c'est évident que Jésus est le Christ. Qu'en est-il au temps de Jésus? Comment Jésus se présente? Alors, je vais dire ici quelques mots d'abord de ce fameux secret messianique. On constate d'abord qu'il y a une assez grande réticence de Jésus par rapport aux titres et aux attentes messianiques. C'est surtout Marc qui nous présente ça. Donnez quelques exemples, c'est assez frappant. Lorsque des démons confessent l'identité de Jésus, Jésus leur impose le silence. Marc 1, verset 23. Il se trouve dans la synagogue des gens, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écrie « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Bien, hein, le Saint de Dieu. S-A-I-N-T. Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et fin du chapitre 1 de Marc, verset 34, Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Donc les démons, les êtres célestes, savaient l'identité générale de Jésus, l'identité profonde de Jésus. Ils en avaient peur, ils étaient obligés de le reconnaître. Mais Jésus dit, non, taisez-vous. Lorsque Jésus guérit des gens, à plusieurs reprises également, il leur demande le silence. Lorsqu'il ressuscite la fille de Jaïrus, Marc 5, verset 43. Après l'avoir ressuscité, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose et qu'on donne à manger à la fille. Marc 7, verset 36. Après la guérison d'un sourd-muet, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommandait, plus ils en parlaient. Pas de chance là-dessus. Mais voyez quand même l'attitude de Jésus, dire non, on ne fait pas de publicité, pas de mention de ces miracles. On n'en fait pas de publicité. Même réserve après l'épisode de la transfiguration. Ils ont vu, les quelques disciples qui étaient là ont vu Jésus dans la gloire, transfiguré. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et pareillement, lorsque Pierre confesse que Jésus est le Christ, Jésus leur ordonne la discrétion. Jésus a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit ensuite, après cela, Jésus a-t-il dit, leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Vous voyez la réticence. Jésus accepte qu'on dise « Tu es le Messie », mais ils disent « Vous n'en parlez pas. » Comment expliquer cela? C'est étonnant. D'un côté, Jésus dit, Jésus se dévoile par ses miracles, par ses actions, et d'un autre côté, dit, il ne faut pas le dire, il ne faut pas que ça se colporte. Alors, certains spécialistes ont trouvé que c'était un peu suspect. Et ils ont dit, c'est qu'il y a un truc un peu bizarre, et c'est probablement une espèce de manière de nous cacher quelque chose, hein, théorie un peu du complot. Et en fait, l'idée qu'ils ont, c'est de dire, en fait, pourquoi est-ce que Marc nous dit, Jésus a dit, Jésus a fait, et en même temps, il dit, il ne faut pas que vous le disiez. Il disait, c'est que la réalité, c'est que Jésus ne s'est jamais cru le Messie. C'est l'Église, après, qui lui a donné ce titre. C'est l'Église des spécialistes, hein, qui ne sont pas vraiment très fidèles à l'Écriture. Ils disent, pourquoi est-ce qu'on a cette idée du secret messianique de Marc? C'est que Jésus ne s'est jamais cru le Messie. C'est l'Église qui a donné le titre. Comment est-ce qu'on concilie ces deux choses qui sont en tension? Ben, on dit que Jésus, en fait, avait dit de garder le secret. Donc, c'est comme ça qu'on dit à la fois oui et non. Et c'est comme ça que les choses se seraient passées. Alors, cette hypothèse, elle repose sur des a priori qui ne tiennent pas si on regarde l'examen attentif des textes. Il y a plusieurs endroits où c'est clair que c'est Jésus qui affirme qu'il est le Messie, qui a voulu que ce soit cru, et des choses qui ne peuvent pas être l'invention de l'Église. Par exemple, quand Pierre confesse « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », ça, c'est pas possible que ce soit l'Église qui ait inventé ça, parce que, dans ce même passage, Pierre se fait appeler par Jésus « Arrière de moi, Satan », parce qu'il avait aussi ensuite refusé l'idée des souffrances de Christ. On n'invente pas une histoire comme ça si c'est de la pure invention. Hein. On ne se torpille pas au moment où on essaye de faire passer quelque chose. En fait, l'explication la plus convaincante à cette réserve de Jésus par rapport au titre messianique, c'est le fait que Jésus a refusé d'endosser un certain nombre de conceptions du Messie qui étaient celles de ses contemporains. Il a été réservé par rapport au titre parce qu'il savait ce que les gens en feraient. Il savait quelles étaient les conceptions des gens. On projetait toutes sortes d'idées, toutes sortes d'attentes sur cette figure. Et à cela, Jésus a dit non. Et il a préféré que ce soit finalement la vérité de son action et la vérité tout au long de son ministère et jusqu'à sa mort et sa résurrection qui puisse donner la clé des choses. L'autre élément très très important, c'est que il y avait un point qui était essentiel pour Jésus et qui était absolument en dehors de toute la conception messianique des gens. C'est l'idée que le Messie doit souffrir. Le Messie doit souffrir. Jésus savait très bien que pour lui, être le Messie, être l'envoyé de Dieu, ça voulait dire souffrir, être mis à mort et ensuite ressusciter. Et Jésus savait cela, mais ça c'était quelque chose qui était absolument hors de la pensée de tous les gens, de tous ses contemporains. Et donc Jésus a voulu en quelque sorte, a été très réticent sur les titres messianiques, parce qu'il savait que ça risquait de provoquer toutes sortes d'idées qui étaient pas en relation avec ce qui était le cœur de sa mission. Et Jésus a lui voulu apprendre, dire à ses disciples que vraiment c'est par sa mort, par sa résurrection, c'est le scandale de la croix, c'est par ce moyen-là qu'il se manifesterait véritablement comme le Messie. Voilà, me semble-t-il, la clé de cette réserve de Jésus par rapport au titre. Il n'était pas le Messie comme on l'entendait autour de lui. Et il voulait que l'on voit que ça passe par la croix. Et ce qui est significatif, c'est de voir que c'est plus on s'approche de la passion, plus on s'approche de la passion et de la croix, plus Jésus lève le voile sur sa messianité. Et on voit que c'est à ce moment-là que Jésus commence à faire des choses qu'il n'avait jamais pas fait avant. Le dimanche des rameaux, c'est lui qui a mis en scène l'entrée de Jésus à Jérusalem comme un roi sur son âne. Mais il l'a fait peu de temps avant, enfin avant, quand on a voulu le faire roi, il était parti. Là, c'est lui-même qui met en scène une scène, un moment où tout le monde, où il sait qu'il suscite une espérance royale. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il sait que la vérité va de sa vraie mission va éclater dans les jours qui vont venir. Et parce qu'on s'approche de la passion, il permet cela. Hein. C'est aussi devant le grand prêtre, le Sanhédrin, quand on lui demande de dire « Es-tu vraiment le Messie ?» que là, vraiment, il a une confession qui est claire et qui définit même la façon dont il se considère comme le Messie. Devant Pilate aussi, il dira, quand il dit « es-tu roi des Juifs ?» il dira « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc il dit « Oui, je suis roi des Juifs, mais d'une manière différente que ce que l'on entend ». Donc vous voyez, c'est cela la clé. Hein. Jésus a une réserve par rapport à toutes les conceptions messianiques de son temps, mais parce qu'il voulait manifester vraiment le chemin particulier qui était le sien. Alors je termine juste maintenant en disant quelques mots sur deux titres important qui éclaire l'identité et la personne de Jésus. C'est le titre de fils de Dieu et le titre de fils de l'homme. Je dis quelques commentaires rapides. Le terme de fils de Dieu est souvent accolé au terme Christ. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, a dit Pierre lors de sa confession. Comment comprendre ce titre de fils de Dieu? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs sens possibles selon les personnes qui le voient, qui l'emploient. Il y a un sens, on va dire, simplement messianique. Je m'explique. En 2 Samuel 7, quand Dieu avait promis à David qu'il aurait toujours un descendant sur son trône, Dieu avait dit pour ce descendant qui viendrait, il dit « Je serai pour ce fils que je te donnerai sur ton trône, je serai pour lui comme un père et il sera pour moi comme un fils ». Et de dire de quelqu'un Donc il y avait un lien particulier entre fils de Dieu et cette promesse messianique. Et donc il est possible d'employer ce terme de fils de Dieu en disant c'est celui qui accomplit la promesse messianique faite à David. Donc c'est vraiment un descendant de David, le Messie, dont Dieu est particulièrement le Père et dont il est particulièrement le Fils. Hein. Mais ça dit plus la proximité, si vous voulez, et une identité en tant que Messie. Hein. Et c'est certainement dans ce sens qu'il faut comprendre ce que dit Nathanaël lorsqu'il vient auprès de Jésus, qu'il le reconnaît, il dit « Maître, tu es fils de Dieu et roi d'Israël ». Et je pense que « fils de Dieu, roi d'Israël » ici, ça, c'est très très proche en disant « tu es vraiment celui qui était promis, le descendant de David promis ». Un autre sens du terme peut désigner quelqu'un qui était un homme pieux et juif et juste. Un fils de Dieu, quelqu'un qui est vraiment très très juste. Hein. Et quand quand le centurion dit de Jésus, après la crucifixion, assurément celui-ci était fils de Dieu, il est possible que dans sa bouche, ça veut dire c'était vraiment quelqu'un de juste. D'ailleurs, Luc emploie l'expression c'était quelqu'un de juste. Alors ça, c'est des sens un peu plus restreints, me semble-t-il. Ceci dit, ces sens particuliers n'épuisent pas la portée de l'expression. Et Jésus s'est prénommé lui-même à bien des reprises le Fils dans un sens particulier et dans le sens d'une relation toute particulière au Père. Hein. Un des textes les plus forts, c'est dans Matthieu 11, verset 27, où il dit « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Là, il y a vraiment une intimité, une connaissance parfaite l'un de l'autre. Et là, c'est vraiment l'être de Jésus qui est en cause. Lorsque Jésus parle comme ça, Fils de Dieu, là, ça dit beaucoup plus. Et d'ailleurs, vous savez que Jésus a dit que sa relation avec le Père était particulière. Lorsqu'il dit, il parle de son Père, il parle de son Père à lui. Il fait parfois la distinction en disant, allez vers mon Père et votre Père. Et d'une manière unique et particulière, Jésus est fils de Dieu dans une intimité particulière. En tant que fils de Dieu, Jésus est aussi au-dessus des anges. Hein, quand il parle de ceux qui connaissent le jour du retour de l'intervention de Dieu, il dit, ni les anges, ni le Fils, le Père seul connaît. Et là, il fait quelque chose qui est ascendant, ni les anges, ni le Fils, le Père seul. Donc pour Jésus, le Fils, c'est quelqu'un qui est au-dessus des anges. Et on sait aussi que dans la parabole des vignerons homicides, lorsque Jésus fait l'histoire de tous les envoyés de Dieu, il y a eu les prophètes qui sont décrits comme un vigneron qui envoie des serviteurs vers ceux à qui il a loué sa vigne. Et après, il dit, quand tous les serviteurs ont été tués, il dit, j'enverrai mon propre Fils. Et là, fils veut dire tout à fait autre chose au-dessus d'un prophète, d'un simple envoyé. Et les disciples, au fur et à mesure, commencent à comprendre vraiment cette idée que Jésus se présente vraiment comme le fils de Dieu dans une relation tout à fait unique, quant à son être même, avec le Père. Après la tempête apaisée, ils se prosternèrent devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Là, c'est quelque chose qui... C'est pas juste « Tu es vraiment quelqu'un de très saint. » »« Tu es vraiment le Fils de Dieu. » De manière très forte. En même temps, je crois que ce qui est intéressant, c'est de... Alors, ce qui semble intéressant, c'est que les Juifs qui s'opposaient à Jésus ont été beaucoup plus lucides que les... C'est venu plus vite chez ceux qui s'opposaient que chez ceux qui adhéraient. Dans Jean 5, verset 18, il est dit « Les Juifs, les chefs des Juifs, cherchaient à faire mourir Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Là, c'était clair. Ils ont vu très, très clairement. Alors la question, c'est est-ce que les chefs des Juifs étaient plus lucides que les autres qui ont mis plus de temps? Alors, je pense que non. Ils étaient plus lucides, ils ont bien reçu, mais ils étaient plus lucides parce qu'ils ont refusé. Quand vous refusez quelque chose, vous pouvez dire « je ne suis pas d'accord », mais oui, il se proclame fils de Dieu, et je le condamne pour ça, c'était très facile. Par contre, pour ceux qui acceptaient de dire « tu es le fils de Dieu », ça commençait à faire réfléchir. On a toujours appris que Dieu est un Dieu un, le Dieu unique. Qu'est-ce que ça veut dire « Dieu est le Dieu un, le Dieu unique, et il y a le fils de Dieu en même temps » Qu'est-ce que c'est ça? C'est compliqué. Il faut arriver à changer de mentalité. Et je pense que les opposants à Jésus ont eu plus de facilité à bien comprendre son message parce qu'ils n'avaient pas à l'intégrer. Et c'était difficile que d'intégrer cette idée que Jésus puisse être aussi le Fils de Dieu dans un sens-là. Ça impliquait beaucoup de choses sur Dieu. Voilà un petit regard sur l'expression « Fils de Dieu ». Mais le titre le plus souvent employé par Jésus, c'est le titre « Fils de l'homme ». Et là aussi, juste, j'aimerais dire que les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on imagine. « Fils de l'homme », ça veut dire d'abord « homme ». Quand Dieu s'adresse à Ézéchiel, il dit « fils d'homme », etc. « Homme » simplement « humain ». Donc « fils de l'homme », c'est ce que ça veut dire. Maintenant, « fils de l'homme », ça avait aussi un autre sens. Dans Daniel, au chapitre 7, il était question du règne de Dieu. Et le règne de Dieu qui allait venir, un règne éternel, par quelqu'un qui, comme un fils d'homme, vient sur les nuées. Et là, vraiment, c'était une figure messianique. C'est celui qui venait sur les nuées et qui établirait le règne éternel de Dieu. Fils de l'homme, le fils d'homme, dans ce sens-là, c'est très majestueux. C'est très, très majestueux. Et si vous voulez, Jésus s'est appliqué le titre de fils de l'homme aussi dans ce sens-là. Dans son procès, on lui a demandé « Es-tu vraiment le Messie ?» Il a cité ce texte de Daniel 7. Il dit « Désormais, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées. » Et il l'a combiné avec « Vous verrez le Fils de l'homme à la droite de Dieu. » C'est le psaume 110 qui dit que le Messie serait à la droite de Dieu. Donc, pour Jésus, c'était clair. Quand il pensait « Fils de l'homme », ça impliquait aussi cette idée de celui qui vient inaugurer le royaume, qui vient des cieux, qui est venu des cieux, à cause de ce texte de Daniel 7. Mais en même temps, vous voyez, Jésus, il emploie ce mot, le fils de l'homme, il l'emploie en permanence. Et c'était à la fois un terme humble, homme comme tous les hommes, et un terme qui disait, mais si vous cherchez un peu plus loin, vous pouvez découvrir aussi qu'il y a beaucoup plus que simplement homme comme tous les hommes. Et Jésus a joué sur ces registres-là. Et une des choses particulières aussi que Jésus va faire, c'est qu'il va dire que comment est-ce que ce fils de l'homme établit son royaume, il vient des cieux, oui, d'une certaine façon, mais Jésus dira aussi, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus va lier ce thème du Fils de l'homme qui vient sur les nuées pour établir le règne de Dieu à cet autre thème qui était complètement délaissé par l'attente juive, le serviteur souffrant. Le Fils de l'homme qui vient sur les nuées établir le royaume est aussi celui qui va souffrir, et c'est par ce biais-là qu'il aura ce rôle-là. Vous voyez, voilà la façon dont Jésus s'est présenté. Donc, je crois que je voulais un peu faire cette présentation pour nous montrer qu'il y a vraiment, dans la personne de Jésus, dans tout son message, une énigme d'une certaine façon. Tous ceux qui l'ont côtoyé ont vu qu'il y avait chez lui beaucoup plus que ce que l'on pouvait imaginer à première vue. Et Jésus a su donner à la fois des éléments où il disait « Oui, je suis là simplement devant vous » et des éléments très forts pour dire « En effet, il y a plus que ce que vous pouvez simplement imaginer quand vous voyez ce rabbi venu de Galilée. » Il y a là une sorte d'énigme de la personne de Jésus. Tout se dénouera pleinement. À quel moment? C'est au moment de la résurrection du Christ. Hein. Paul nous dit « Il est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. » Donc ça c'est clair que là, tout c'est clair. Mais déjà, tout était en germe et Jésus a voulu qu'il y ait cette place toujours pour l'écoute, pour la recherche, pour l'approche dans l'ouverture et dans la foi. Et c'est en faisant ce cheminement que l'on peut découvrir tout ce qu'il est. Et je dirais que pour nous aussi c'est pareil. C'est en nous approchant de Dieu, du Seigneur Jésus, en cherchant à découvrir tout ce qu'il est pour nous, dans l'ouverture, dans tout ce qu'il a à dire, que l'on peut découvrir vraiment la richesse de son être et de sa personne. Voilà, je m'arrête là sur cette présentation que je voulais vous faire de la façon dont Jésus est apparu dans son contexte.